C'est avec joie, l'éminent professeur Mohamed Harkoun, nous le recevons suite à son nouveau livre, qui en vérité n'est pas un nouveau livre, c'est un livre que je trouve très étonnant, parce que c'est vraiment, vraiment ce qu'on pourrait appeler « working in progress ». C'est la quatrième ou cinquième version d'un même livre, chaque fois revu, approfondi, élargi, étendu, et qui au départ était destiné à être une simple présentation de clés de compréhension pour l'islam. Et ce livre, donc nouveau ancien, si j'ose dire, dans sa quatrième version, ou troisième, ou cinquième,
cinquième,
donc avec un nouveau titre, est légitimé tout à fait, parce que c'est largement étendu, agrandi, et de nouveau, c'est clé de compréhension de l'islam. C'est paru sous le titre d'ABC de l'islam, pour sortir comme sous-titre des clôtures dogmatiques, paru toujours chez le même éditeur, dès la première présentation, chez Granger, c'est cette toute dernière version de 2007. Je rappelle, évidemment, faut-il le rappeler, que Mohamed Harkoun est professeur émérite d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne. Vous avez était très très jeune assistant,
oui.
Vous êtes resté des années 60, début des années 60 jusqu'à...
De 61 à 94.
À 94.
Oui.
Ça, vous avez vu défiler des thèses, donc.
Oh là là, j'ai vu défiler des thèses de révolution aussi. 68, j'étais en plein dedans.
Et au départ, vous étiez formé. On n'a jamais parlé de votre formation, Mohamed Harkoun. J'imagine que vous êtes passé par Baudelaire.
Mais je voudrais dire justement que je suis formé d'abord par le fait que, né en Kabylie, je suis formé dans la culture orale. Car j'ai parlé le Kabyle, évidemment, en Kabylie, et je le parle toujours. Et j'ai vécu toute mon enfance et ma première adolescence avec le Kabyle.
Et vous êtes du même, si je ne me trompe pas.
Et je me souviens justement d'un certain nombre de traits du fonctionnement de la culture orale, ce qui a déterminé ma curiosité très vite pour l'ethnographie, bien sûr, et l'anthropologie.
Vous êtes du même endroit en Kabylie que le grand écrivain Mouloud Mamri.
Absolument, oui.
Deux enfants prestigieux de ce... Comment s'appelle votre lieu ?
Non, mais ça s'appelle Taourat Mimoun. Et ce village se distingue effectivement par un fait d'histoire. La première école primaire a été fondée par Jules Ferry dans ce petit village, à 1200 mètres d'altitude, en 1881.
Et donc là, vous vous sentez...
Donc, en Algérie, en ce temps-là, c'était la Kabylie venait d'être pacifiée, entre guillemets, c'est-à-dire c'était le dernier moment de la conquête, et je ne sais pas qui a soufflé à Jules Ferry l'idée de choisir ce village. Il est vrai que le village avait été déjà choisi par des jésuites. Et cette école a remplacé une école des jésuites qui n'a pas duré longtemps. Et après ça, justement, il y a eu une école des Pères Blancs dans un village voisin qui a joué aussi un rôle extrêmement important parce qu'il y a des générations qui ont été formées pratiquement jusqu'à l'indépendance. Et beaucoup de Kabyles sont sortis de là et ont fait de brillantes carrières.
Et après, donc, l'université
Après l'université, non. Après l'université, c'est Oran. Oui, je suis algérien, vraiment algérien. C'est là que j'ai appris mes premiers linéaments d'arabe, de langue arabe, mais l'arabe de rue. Et l'arabe écrit, j'ai commencé à l'étudier quand je suis allé à la faculté à Alger. Et j'ai fait ma licence à Alger, jusqu'en 55.
Qui était le grand maître à Alger à l'époque?
Il y en avait plusieurs. Et puis moi, je ne me contentais pas des maîtres d'arabe.
Qui était-il? Nommez-nous.
C'était Henri Pérez. Henri Pérez.
Spécialiste de l'Espagne.
De l'Espagne, de la poésie espagnole, de la poésie arabe d'Andalousie. Et puis Canard, Marius Canard, un grand érudit.
Il était très bon, lui, il avait écrit des livres
très
étonnants.
C'est un grand érudit qui connaissait le russe.
Les Fatimides, le rapport dispositif califal et
byzantin. Il a fait sa thèse sur les Hamdanides au Xe siècle. Un très grand érudit, très humble, très modeste, mais vraiment...
Il a beaucoup travaillé sur les voyageurs aussi,
et puis il y avait aussi quelqu'un qui, lui, je l'aimais davantage, en ce sens qu'il avait... un sens de la critique de ce qu'il enseignait. Et donc, c'est le premier qui m'a introduit à l'analyse. C'est Jean Le Cerf, qui ensuite est revenu. Il a enseigné longtemps à l'École des langues orientales. Et puis un autre qui m'a pris en amitié, il m'a beaucoup aidé, comme le font un certain nombre de professeurs avec leurs bons étudiants, c'est Roger Le Tourneau, qui est mort... prématurément.
Et après, donc, la Sorbonne et Blacher, non?
Oui, je suis venu, après la licence, je suis venu à Paris pour faire...
En quelle année, alors?
C'est 55.
55.
Pour faire mon agrégation, et puis, bon, la guerre d'Algérie se prolongeait, j'espérais rentrer après l'agrégation, mais je n'ai pas pu. Et je devais faire une thèse sur la pratique religieuse en Grande Kabylie. Je l'ai même déposée.
L'anthropologie, là, qui vous a...
Exactement, je voulais voir la religion en Kabylie, l'islam en Kabylie. Déjà, j'avais cette curiosité. Et c'était une vraie thèse que j'avais en tête. Et c'était... Je l'ai inscrite même avec Jacques Berck, qui venait de soutenir sa thèse, sa propre thèse sur les Sekhsawa.
Sekhsawa, cette tribu berbère du Haut Atlas.
Du Haut Atlas au Maroc, oui. Et puis, j'ai attendu la fin de la guerre d'Algérie, qui n'en finissait pas. Alors Blacher m'a dit, il ne faut pas perdre votre temps comme ça, allez-y, prenez un sujet que vous allez traiter dans les bibliothèques et pas sur le terrain.
Et donc là, le fameux philosophe Miskawaï, non ?
Là, il y a justement, j'ai fait le lien, parce que ma passion était pour l'ethnologie, l'anthropologie, mais l'autre passion, c'était la pensée. Et c'est comme ça que j'ai été guidé, comme ça, intuitivement, personne ne m'a soufflé ça, vers Miskawaï, parce qu'il a écrit...
Miskawaï, philosophe, il a écrit une éthique.
Oui, traité d'éthique.
Traité d'éthique.
Il n'y a pas de pareil jusqu'à présent dans la littérature de langue arabe sur l'éthique. Et l'éthique a complètement disparu de l'horizon.
Vous rappelez à nos auditeurs les dates de Miskawaï?
Oui, oui, il est mort en 1028, je crois, si je me souviens bien. En tout cas,
c'est un homme de l'an 1000.
Il a vécu longtemps. Il a vécu longtemps. Oui. Et avec son compagnon et son interlocuteur dans un beau livre d'échanges philosophiques et culturels, Abu Hayyan Tawhidi. Ils ont écrit un livre de correspondance scientifique, enfin de dialogue culturel, philosophique, qui s'appelle « Al-Hawamil wa Shawamil », c'est-à-dire les questions jetées à qui veut bien les entendre et les reprendre pour y répondre, « Al-Hawamil », comme le chameau qui erre dans le désert. Et l'autre a répondu par les Shawamil, les réponses exhaustives. C'est un très beau livre qui m'a énormément plu et qui m'a même marqué intellectuellement. Parce que, alors, j'ai fait revivre la génération de Miskawaï, c'est-à-dire 350-400 de l'Égypte, c'est-à-dire, disons.
L'an 1000.
Oui, autour de 950-1020. J'ai été comblé intellectuellement, d'où mon amour pour la question humaniste. Ma thèse de doctorat, c'est...
C'est sur l'humanisme.
Oui, l'humanisme justement. Arabe, voilà. C'est-à-dire d'expression arabe, oui. Au Xe siècle.
C'est ça.
Voilà.
Vous estimez...
Miskawaï n'est qu'un point d'appui. J'ai exploré ce que j'ai appelé, d'ailleurs, dans le livre, la génération de Miskawaï et de Tawhidi. Et c'est une génération absolument unique.
Humaniste.
D'ailleurs, unique, vraiment.
Humaniste au sens où Erasme l'était, très précisément.
Absolument. Ouais, parce que c'était l'ouverture à toutes les cultures qui pouvaient exister, ne se séparaient pas de l'Irak. Pendant cette dynastie qui a régné de 335 jusqu'à 1050. Et c'était un moment...
935, alors.
Oui, 935, le début.
1050.
Mais 1000, oui.
C'est ça.
Donc, c'est pour cela que je suis venu sur la question humaniste aujourd'hui, pour constater quelque chose de tout à fait décisif dans l'histoire de la pensée islamique, l'immense rupture. Rupture si profonde qu'elle est devenue une régression en deçà, bien en deçà de tout ce qui a pu être fait, produit, débattu, comme la question du Coran créé, entre, disons, 700, parce que les Omeyyades sont arrivés en 661, et déjà, on est parti pour...
Très vite,
avec une dynamique formidable, tout de suite, la ville de Basra et la ville de Koufa, qui étaient des milieux bouillonnants,
avec
effervescents.
Avec des écoles rivales.
Avec très cosmopolites, avec toutes sortes de mémoires collectives qui échangeaient. On le voit dans l'œuvre de Jaheb, par exemple, dans le Kitab al-Bukhala, le livre des Avars, etc.
Là, ça nous ramène au 9e siècle.
Oui, oui. Des esprits vraiment extrêmement attachants. C'était des lumières, sans faire d'anachronisme, pour le temps évidemment, toute proportion gardée, c'était de vraies lumières dites en langue arabe. Et la langue arabe a pris une extension, justement, une expansion dans l'ère méditerranéenne grâce à cette production de factures véritablement humanistes. Quand vous lisez Miskaweh, d'abord son traité d'éthique, c'est l'éthique à Nicomaque.
Mais c'est une réplique ou c'est
c'est une utilisation de la réflexion d'Aristote, mais enrichie des apports de la culture ambiante.
C'est-à-dire persano-arabe.
Il raconte dans son livre, Miskaweh, son livre d'histoire, Tajarib al-Umam, qui...
Tajarib al-Umam, ça veut dire l'expérience des nations.
L'expérience des nations, c'est où il a fait l'histoire du temps présent. L'histoire du temps présent. Et il raconte qu'il allait se balader dans tout l'Iran à la recherche de manuscrits de toute culture, même venant de l'Inde, évidemment de littérature arabe ancienne, juive, chrétienne, et bien entendu toute la littérature grecque et la pensée grecque. Et il était le directeur ou le conservateur, comme on dit aujourd'hui, d'une immense bibliothèque du vizir, un fameux vizir, qui était lui-même un grand humaniste, Abul Fadl ibn al-Hamid.
Dans quelle ville alors ?
Alors, lui, à Bagdad, avec au temps de Hadhrat Daoula, mais il circulait de Bagdad à Ray, en Iran, à Shiraz,
et à Isfahan. C'est le Téhéran actuel.
Parce qu'il y avait trois frères bouyides et chacun avait pris un centre et faisait une rivalité à la fois fraternelle et très productive parce qu'ils rivalisaient.
Comme la rivalité des cours princières
à
la Renaissance européenne.
Pour attirer des connaisseurs. Et alors, on voyait. Et puis, il y a les majalis l'ilm, c'est-à-dire des salons. Pas littéraire, mais humaniste. Donc il y a la littérature, bien sûr. D'ailleurs, l'humanisme, à ce temps-là, s'appelait l'adab. La littérature à sa place, la poésie à sa place. Mais c'est l'adab philosophique qui va prédominer et soutenir tout cela. Le soutenir par une information et une référence constante à la raison, au raisonnement, à l'analyse. Voilà, c'est une époque, et c'est cela que j'ai essayé de faire revivre, et alors j'essaye de faire prendre conscience de cette rupture qui a duré pratiquement, pour moi il y a deux dates qui signent la rupture, c'est la mort d'Averroès en 1198, donc fin du XIIe siècle, Et la mort d'Ibn Khaldoun, pour la critique historique, et puis aussi il a écrit une sorte d'encyclopédie réflexive, une écriture réflexive dans sa Mouqaddima sur l'ensemble de la culture arabe telle qu'il pouvait l'avoir.
Donc 1406.
1406, c'est la date limite. Parce
1198,
parce 1406. Après lui, la Mouqaddima n'est guère lue. Ceux qui ont pu la lire, ils n'en ont rien tiré pour aller de l'avant.
Votre livre ABC de l'Islam, la dernière production de cette pensée critique par laquelle vous avez approché justement l'Islam, ses textes fondateurs, outre ce travail strictement universitaire, j'ai souvenir de la longue introduction de l'édition.
On a d'ailleurs fait une édition ensemble et ça débutait, c'était la première.
Mohamed Harkoun, professeur Harkoun, vous étiez le premier dans Culture d'Islam,
exact.
Et c'était consacré à votre introduction
au Coran.
Au Coran,
ben oui, ben voilà,
édition de poche Garnier Flammarion, c'était en octobre 97.
J'en ai la mémoire. Ça, c'est mon texte qui a le plus circulé parce que la traduction en question, collection Gallimard, évidemment, le Coran, ça se vend partout, et comme c'est un petit livre pas cher.
Oui, mais là, il y avait une programmatique très offensive aussi.
Ah oui, oui, oui. Bah oui, c'était la première, le premier jet.
L'approche.
Le premier jet de.
Par l'analyse du discours.
Parce que j'étais aussi préoccupé par la question religieuse.
C'était avant la vague intégriste, tout cela.
Ah, bien avant, oui. Là, c'était le calme. On réfléchissait calmement, si je puis dire. On n'était pas pris aux tripes par toutes sortes de révoltes, de rages maîtrisées.
D'événements terribles
et inouïs, inénarrables, et qui font extrêmement mal, justement, à ceux qui donnent du prix à la raison et qui donnent du prix à la vie de l'esprit. Et c'est comme ça que j'en suis venu à demander que l'on ajoute aux déclarations universelles des droits de l'homme une déclaration universelle des droits de l'esprit, parce que le destin de l'esprit, ce que représente l'esprit humain, c'est autre chose.
Un de vos élèves,
c'est différent de l'homme citoyen.
Un de vos élèves, Claude Gilliot, qui a fait un travail remarquable sur Tabari, j'ai souvenir d'une discussion avec lui où nous nous sommes accordés sur l'idée que ce qui compte le plus, c'est la sainteté de l'esprit.
Quant à la sainteté, je n'ose pas parler de sainteté parce que c'est un terrain glissant, mais en tout cas des droits de l'esprit. Je pense que
c'est là où
la raison n'est pas respectée et n'est pas protégée. Voilà ce que je veux dire. Et la raison, d'ailleurs, aujourd'hui,
de part et d'autre, lorsqu'on évoque l'islam, c'est-à-dire des cinglés de l'islam,
en Occident,
et de ceux qui ont viscéralement l'islam en haine,
même en Occident,
oui.
Les dérives de
c'est pour ça que vous essayez de redéployer, de resituer l'islam par rapport à cette très grande tradition.
Exactement, mais qui nous est commune. D'ailleurs, j'écris beaucoup là-dessus parce qu'il y a aussi mon grand chantier qui est que j'appelle le remembrement de la géohistoire de l'espace méditerranéen. La géohistoire qui est tout à fait différente de la géopolitique qui nous envahit, qui nous dévore et qui nous empêche justement à la fois de réfléchir, de penser, d'écrire sur cet espace qui est un espace que nous devons absolument revisiter. Il y a le jeune professeur Thomas Romer qui vient d'ouvrir une chaire sur les milieux bibliques au Collège de France. Et il révolutionne totalement l'étude de l'ensemble des écrits bibliques et du corpus, du grand corpus biblique. Et il le fait de telle façon, j'ai écouté sa leçon inaugurale, alors à la fois j'étais très enthousiaste parce que je retrouvais des choses que je dis depuis longtemps à propos du Coran, mais de l'autre côté je suis triste parce que justement le fait coranique, comme je l'appelle, c'est-à-dire ce discours qui surgit dans le Hijaz, après de très nombreux discours qui ont surgi dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Le croissant fertile allant de la Palestine, la grande Palestine antique, et qui fait le tour en passant par la Syrie jusqu'à l'Iran. Et ça fait un croissant. Et ce croissant descend jusqu'au Hijaz, c'est-à-dire le lieu
de la Mecque et de Médine.
De la Mecque et de Médine, où est apparu exactement ce que j'appelle, moi, le discours prophétique, au sens linguistique, pas au sens théologique. Au sens linguistique, c'est exactement ce que Romère décrit dans l'ensemble des livres qui composent la Bible. Il y a là une facture commune, qui est une facture linguistique sémitique. Ça va du syriaque à l'araméen, à l'hébreu,
à l'arabe.
Il y a un socle linguistique sémitique, il y a une rhétorique spécifique de ce discours, qui est une rhétorique sémitique, elle est en train d'être étudiée en ce moment, et qui donc, c'est un autre bourgeon qui fleurit, qui s'ouvre dans le Hijaz, mais qui s'inscrit absolument dans cette très longue continuité depuis la Genèse jusqu'au dernier acte, justement, la dernière émergence de ce type de discours avec le Coran. Et voir le Coran dans cette perspective, mais c'est une révolution tout à fait inouïe.
Michel Cuypers, dans son livre, avec l'analyse qu'il fait, vous le citez d'ailleurs, de la cinquième sourate, applique justement cette grille de rhétorique sémitique des biblistes sur le Coran, et ça fonctionne d'une manière spectaculaire.
Exactement, ce qui donne de la force à mon concept de discours prophétique. Mais quand je dis discours prophétique, moi qui suis historien de la pensée islamique, on pense tout de suite au prophète Mohammed.
Vous avez un schéma là. à la page 89 de votre livre vous essayez justement
c'est ce que j'appelle la mise en
perspective, je donne vos termes entre la parole de Dieu, le discours coranique, le corpus officiel clos, corpus interprétatifs, la communauté interprétante, l'histoire terrestre, l'histoire du salut, révélations successives et perspectives eschatologiques.
Vous voyez, en lisant seulement cette conceptualisation, ces mots-là, qui sont des concepts très lourds, en les lisant seulement, vous voyez l'énormité des chantiers que nous avons absolument barrés lorsque nous disons « le Coran ».
Le Coran parle de Dieu.
Le Coran, le mot Coran, ignore absolument tout ça. Autrement dit...
Alors que là, on est au cœur
choses. De la réalité historique, de la façon dont les musulmans... Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la rupture culturelle, intellectuelle, par rapport à l'islam classique. Ici, je parle de la rupture à l'intérieur même du corpus coranique. C'est-à-dire que le Coran donne beaucoup de place à Israël, à l'ancien Israël, à l'Israël biblique. Il en parle partout, constamment.
Les Béni Israël.
Et donc, on va couper tout cela, ça va être marginalisé dans la tradition islamique. Dans les débuts, on se servait de référence à la littérature hébraïque.
Ce qu'on appelle les Israéliens.
Les Israéliens.
Ça, c'est leur disparition.
Et justement, voilà une tendance lourde dans la pensée islamique. Parce que c'est Israël, il n'y avait pas encore les misères que nous avons maintenant. Hein. C'était juste, il y avait Moïse qui pouvait quand même les attirer, il y avait Abraham, il y avait tout ce que dit le Coran, c'est le Coran qui le dit. Donc normalement, on devrait plonger là-dedans sans aucune réticence. pour élargir justement le champ ouvert et défendu par le Coran lui-même. Rupture. C'est une tendance lourde dont nous voyons aujourd'hui des conséquences tragiques. Parce qu'elle a duré dans le temps, une fois coupée la relation avec la littérature juive, qui était déjà riche, le Talmud et toute la Mishnah,
le Midrash
et tout, et parce que ça a commencé depuis très longtemps. Et donc les gens en entendaient parler, même oralement.
Puis il y a le rôle des convertis, probablement.
Oui, il y avait des traductions en arabe, etc. Mais la tendance lourde, on va s'agripper à la lettre du discours coranique.
Vous vous rappelez d'ailleurs, Mohamed Harkoun, cet écart qu'il y a entre les exégèses coraniques relativement pour le grand moment islamique tardif du XIIIe, XIVe siècle, comme celle d'Ibn Kathir, qui sont justement celles qui ont fait cette rupture avec grande tradition polyphonique de l'exégèse. Celle de Tabari, de Zamakhshari, de Razi, c'est-à-dire ces exégèses qui vont du IXe au début du XIIe siècle, qui étaient beaucoup plus fécondes que cette exégèse de la fin du XIIIe siècle qui est devenue très très commune.
Tabari est un trésor et c'est le dernier trésor. Pourquoi est-il un trésor? Parce qu'il a recueilli ces arbales, c'est-à-dire ces petits récits qui rapportent des faits, des souvenirs, des touchants.
C'est une tradition orale, en
somme. Oui, c'est une tradition orale. Il a recueilli cela avec une sorte d'appétit d'abord.
Fin 9e siècle, sans trop
exprimer son choix personnel. Il rapporte le plus grand
rappelez
nombre possible.
Rappelez à nos auditeurs comment, par exemple, un verset est traité par Tabari. Nous avons 30, 40, 50 espèces de fiches qui donnent des interprétations multiples.
Exactement,
et lui, rarement, il tranche.
Exactement, oui, il les rapporte. Il tranche des fois.
Parfois il tranche.
Mais il a cette honnêteté précieuse pour l'historien aujourd'hui de rapporter le plus grand nombre. Le fameux verset sur le mot le kalala qui touche à l'héritage des femmes, il y a pour une voyelle, le verset a un sens totalement différent et le système des successions change du tout au tout pour une voyelle, la lecture d'une voyelle, selon que l'on lit un verbe au passif ou à l'actif. Eh bien, il rapporte 27 arbal sur ça. Ce qui prouve que ça a créé un débat formidable, parce que l'enjeu, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social, c'est un enjeu des liens de parenté qui ne vont plus fonctionner comme ils ont fonctionné avant. C'est d'immenses enjeux pour une voyelle. Eh bien, il a cette honnêteté, mais après lui, d'ailleurs, ça ne va plus se faire comme ça, parce qu'ils vont le piller et se contenter, et encore ceux qui le lisent entièrement et scrupuleusement sont devenus de plus en plus rares. Tabari. Voilà encore un exemple formidable de rupture.
Faites aussi une analyse de l'adresse dans le Coran, c'est passionnant, c'est-à-dire le régime des pronoms.
Ah,
et à partir de là, vous dégagez d'ailleurs une stratégie discursive.
Mais bien sûr, bien entendu, parce que, par exemple, il y a ce verbe à l'impératif, « oul », qui revient un grand nombre de fois.
Dit.
Oui, c'est l'impératif qui veut dire dit ou énonce.
Énonce.
Donc, car il y a une énonciation, c'est une énonciation orale, tout est énoncié. C'est important de rappeler que c'est une énonciation orale et non pas une communication écrite. Car lorsqu'on va passer du stade de l'oralité au stade de l'écriture, tout va changer.
Pour le Coran même.
Tous les textes. Et pour le Coran, et comme pour la Bible, c'est exactement la même chose. Et ça, le professeur dont je parlais est tout à fait... évidemment, il travaille avec ça. Et le Coran ne peut pas échapper à cette méthodologie. Et d'autant plus qu'elle nous ouvre des perspectives interprétatives qui illuminent le texte et qui aussi nous permet de réfléchir.
Alors, encore un mot sur ce régime des pronoms, sur sa variabilité.
Alors, l'impératif roule, ça implique quelqu'un qui donne un ordre. Donc, il y a première personne. Il y a quelqu'un qui donne un ordre et qui l'adresse à une deuxième personne. Et cette deuxième personne est chargée d'énoncer quelque chose devant une troisième personne qui sont les audiences multiples devant lesquelles le prophète s'est trouvé pendant 20 ans.
Et le vous, et les il au pluriel.
Et il y a le il au pluriel, il y a le nous de majesté de Dieu. Alors, à partir des relations de personnes, nous créons un espace de fonctionnement linguistique du discours. Et c'est pourquoi cette structure linguistique de ce discours nous oblige à commencer par l'analyse linguistique du texte avant de proférer aucun énoncé dogmatique théologique. Car les énoncés théologiques sont dogmatiques, puisqu'ils n'ont pas fait justement le nécessaire dès le départ. Les juristes ont été sensibles à ça, mais ils l'ont limité au droit. Et moi, je l'étends évidemment à tout ce qui concerne le rapport du croyant à un texte qui est fait pour nourrir la foi, pour diriger la foi, etc. Et cette foi-là, elle doit s'informer, elle doit se former par cette lecture première qui doit être linguistique. Le corpus officiel clos. Je voudrais dire un mot rapide aux auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire le corpus officiel clos? Thomas Romer l'emploie pour la Bible. Il l'emploie pour les évangiles, mais ça fait longtemps, moi, que je l'emploie. Le corpus officiel clos veut dire que cette parole libre prononcée oralement a fait l'objet d'une collecte dans le temps pour devenir un volume, pour être inscrite et préservée dans un volume, un codex que moi j'appelle corpus. Corpus est un terme...
Mushaf.
Oui,
Mushaf, c'est vraiment
oui,
codex.
Non, mais ici, c'est un terme linguistique. Oui. Il est technique. Parce qu'un corpus, c'est un ensemble de textes qui lui-même pose d'énormes problèmes. Parce que comment est-il constitué? Est-ce que véritablement il répond à toutes les nécessités de la présentation de ce qui a été recueilli oralement? Ça pose d'énormes problèmes pour un linguiste. Donc là, une montagne de problèmes, corpus, tous les corpus. Et la Bible est un corpus. Les quatre évangiles qui ont été élus comme les quatre authentiques, c'est un corpus officiel. Pourquoi officiel? Parce que c'est fait sous le contrôle d'une autorité politique ou bien d'une autorité religieuse. Mais l'autorité religieuse est elle-même suspecte. Parce qu'il y a des positions diverses qui sont apparues dès le début de la grande querelle entre les premiers musulmans, de déchirements, de disputes, comme je l'ai dit, sur une voile, etc. Donc, il y a une volonté officielle d'unifier le corpus, ce qu'on va mettre dans le corpus. Et puis, le dernier concept, il est encore plus important. Il est clos. Il est clos en ce sens que les oulamas vont interdire de modifier la moindre lettre, la moindre voyelle, et encore a fortiori, d'introduire par exemple un verset qui serait trouvé dans, si on le trouve dans un manuscrit qui a échappé au moment, etc. Non, c'est clos.
Ces variantes ont circulé jusqu'au début du 4e siècle de l'Hégire, je crois.
Exactement. Oui.
C'est-à-dire vers l'an 1000, tout a été
absolument
bouclé.
Tabari, c'est fini. Et donc la clôture, c'est comme pour les évangiles. On ne peut pas venir, parce qu'il y avait beaucoup d'évangiles qui circulaient dans tout le croissant fertile.
Alors on a parlé d'apocryphes.
Autres sont voilà. Apocryphes. L'autorité a décidé qu'on a trouvé les quatre premiers sur lesquels on va bâtir la foi, et c'est terminé. On ne peut pas en ajouter un autre. Et quand on a trouvé les manuscrits de la Mer Morte, par exemple, l'Église se trouvait très inquiète. Qu'est-ce qu'ils vont, ils vont nous sortir de là? Parce que c'était en 1950, hein, nous sommes en démocratie, nous sommes dans une république laïque, et donc les savants travaillent librement. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des manuscrits auxquels nous ne pouvons pas accès.
Les manuscrits, par exemple, du Yémen.
Exactement, les manuscrits du Coran du Yémen, on n'a pas accès.
Du tout. Je crois qu'il y a eu des regards allemands qui ont constaté des variantes inquiétantes.
Oui, même moi, j'attends que... Moi, personnellement, j'y suis allé, j'ai regardé avec l'allemand en question, mais en ce temps-là, j'ai vu des coffres absolument fermés, mais on ne les a pas ouverts pour moi. Hein. Alors, ben oui. Parce que c'est un enjeu terrible avec tout ce qui se passe. Donc vous voyez à quel point la conceptualisation du texte coranique, ce qui est devenu maintenant le texte, et c'est important parce que...
Le texte intouchable.
Oui, intouchable, parce que la voix a disparu. La voix a disparu. Et ce que les linguistes appellent la situation de discours, parce que lorsque le Mohammed dénonçait un fragment du Coran, il énonçait ça par fragment, il n'a pas fait la récitation totale d'un seul coup, et j'appelle ça les unités textuelles maintenant. Quand il l'énonçait devant une audience, il l'énonçait dans un lieu, il l'énonçait à l'occasion de quelque chose qui vient de se produire. C'est ce qu'on appelle la situation de discours qui donne le sens au fragment en question. Or cela nous échappe. Les musulmans vont nous dire...
Il y a eu quand même cette science...
Non, oui, je réponds avant que tu ne... C'est de la littérature après coup. Et elle tombe sous la même suspicion chez les historiens que tout le hadith, tous les recueils de hadith...
La tradition.
Et tous les écrits d'ordre plus ou moins historiographique. Et tout ce qui concerne la sira...
La
biographie officielle de Mohammed. La sira est faite avec des récits oraux et qui ont fait l'objet aussi de collectes et d'utilisation plus ou moins libres. Ça dépend de l'auteur qui écrit. Et le premier qui a mis par écrit, donc il y a une distance entre lui et la réalité des choses que l'historien recherche toujours à rétablir par rapport à ce qu'on nous raconte dans ce que j'appelle la littérature mytho-historique. Mytho-historique, c'est-à-dire il y a un mélange de récits mythiques et d'histoire au sens historiographique, chronologie, et piqué des faits. Mais il y a des faits qui relèvent de ce que j'appelle aussi le merveilleux, et qui n'ont rien à voir avec la réalité.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ahlal الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده.
Alors, la distinction que vous faites me paraît très importante entre parole de Dieu, discours coranime et corpus officiel clos. Et la parole de Dieu est un livre céleste inaccessible, et là, on ne fait que se référer au Coran, le fameux Ummul Kitab,
le
livre archétypique, c'est presque platonicien.
Mais bien sûr, tout cela, oui. Et tout cela réfère à un passé où ces concepts ont existé. Le concept de livre céleste, il a couru depuis longtemps. Et cette dimension de la longue durée de ce discours, qui quand même a émergé tardivement au début du 7e siècle, eh bien, la pensée islamique n'en a aucune idée. C'est-à-dire que la dimension historique du discours n'habite plus du tout aucun esprit, aucun nom, nous sommes là tout de même, mais je veux dire, dans la pratique courante de l'islam aujourd'hui, la façon dont on parle...
D'ailleurs, il y a un exemple majeur, vous faites tout un sort et un début d'analyse très forte de la fameuse 9e sourate qui comporte deux versets redoutables, le verset du sabre, verset 5, et le verset de la guerre, verset 29, et qui est pratiquement, comment dire, qui est un emblème pour les intégristes terroristes. Et vous faites une
allusion,
ça n'a rien. Ce que vous entendez est à revoir du tout au tout.
Absolument. C'est un exemple tout à fait riche, justement pour bouleverser, ou même j'emploie le mot subvertir, mais ça fait peur aux gens. Ce n'est pas la subversion dans la rue. On ne casse rien, on ne démolit rien, on respecte tout. Mais la subversion, c'est retourner le discours pour montrer ce qui est caché derrière. Voilà. Ce que c'est que la subversion d'une écriture.
Et là, vous mettez
la subversion d'une œuvre.
La problématique des droits et de devoirs par rapport à un contexte anthropologique et historique très précis.
Mais absolument.
C'est une des deux dernières en concurrence avec la 5e du Coran. Et les récapitulatives.
Et il faut le lire justement avec des outils anthropologiques. Et surtout, ne pas projeter sur elle nos conceptions d'aujourd'hui, sur la tolérance.
Oui, mais les fous de Dieu tuent au nom de versets qui appartiennent à cette sourate.
Oui, mais ça, c'est le point extrême de la rupture avec la raison. Le point extrême. Car il y a
je crois qu'ils évoquent le verset 5, si je ne me trompe
le
pas, pour le massacre des moines de Tibérine, non ?
La tradition exégétique appelle ce verset Ayatou Saif.
Le sabre.
Ce n'est pas, les islamophobes qui ont donné ce nom. Ce sont les exégètes, parce qu'ils considèrent que c'est normal. C'est le Saif, c'est au service de Dieu. Mais ça, on le trouve dans le christianisme, il ne faut pas s'en offusquer. Pour parler de ces choses-là, il faut absolument se replonger dans le cadre de connaissance et le cadre des imaginaires de l'époque, et aussi dans la pratique courante dans toutes les cultures du discours merveilleux, le discours du merveilleux. Le discours est en lui-même merveilleux, substantiellement merveilleux, au sens où l'on accepte des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité quand on la creuse et quand on veut comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire.
Et c'est très important de procéder à ce type d'analyse, et il faut espérer que ce type d'analyse mérite d'être transmis par Vienne.
Normalement, ce livre devrait être dans mon souhait, je l'ai écrit dans cette perspective, il devrait être dans les mains de tous les enseignants qui parlent de l'islam d'une façon ou d'une autre, pour qu'ils sachent justement comment traiter aujourd'hui le fait religieux en général Et donc l'islam en particulier,
vous insistez sur la pluralité des temporalités, hein, sur ces analyses, vous insistez sur la nécessité d'engager des analyses comparées qui mettent en perspective ce que vous appelez l'homme talmudique, l'homme des évangiles et des épîtres de Paul, l'homme de la métaphysique classique, l'homme des lumières du XVIIIe siècle, l'homme de la bourgeoisie conquérante, l'homme des humanismes formels et dissertatifs, l'homme déclaré mort par le structuralisme, l'homme du communisme marxisant, l'homme de la philosophie libérale et du libre marché, l'homme du terrorisme international, toutes ces manifestations historiques de la condition humaine, pour désenclaver les prétentions des religions et des formes changeantes de la modernité à l'universel, toujours et partout célébré, affiché, postulé, alors que la raison n'a même pas encore ouvert tous les chantiers de la connaissance et de l'action universalisable. Je crois que là, ça me paraît majeur, cette situation, parce que la critique est d'un double bord.
Avec les temporalités, il y a le concept inauguré par Michel Foucault d'épistémé, c'est-à-dire l'organisation de la connaissance pour chacun des temps considérés et pour chaque type de temporalité. L'épistémé est différente. Par exemple, dans notre culture actuelle, le merveilleux a disparu. Et il est complètement envahi et, je dirais, remplacé en importance, en poids dans notre discours et la manière de communiquer par l'idéologie, par qui essaie de conceptualiser, de se battre avec des raisonnements, etc. Et là, toute cette époque, depuis la Genèse jusqu'à dans nos sociétés, je dirais, jusqu'à maintenant, il n'y a que l'Occident qui s'en est éloigné. Quand on écrit des choses sur le désenchantement du monde, etc., c'est absolument européen. Les Européens qui ont fait émerger une autre raison, une raison d'ailleurs qui a pris un double pouvoir, le pouvoir évidemment souverain, intellectuel et scientifique, d'accord, et puis le pouvoir politique, qui repose sur cette option et recherche sa légitimité et sa validation dans le discours rationaliste et critique. Tandis que chez nous, chez les musulmans, cette révolution n'est pas encore intervenue sur la place de la raison et les fonctions de la raison.
Oui, donc c'est très important de lire cette fameuse sourate qu'invoquent souvent les intégristes pour couvrir et légitimer leurs crimes contexte historique qui est la leur. En même temps, la soumettre aux critères des conceptions modernes de la religion ouverte, tolérante, accueillante aux valeurs morales et spirituelles, parce qu'on se trouve dans un grand embarras face...
Là, il y a des conséquences, bien sûr. Si je fais une lecture à la fois historique, strictement historique, linguistique et anthropologique de l'ensemble de ce texte, ça va poser un problème sur... la validation de la foi, sur quoi va-t-elle reposer? Parce que si on dit que tout cela fonctionnait parfaitement et a émergé d'une culture qui avait telle et telle caractéristique, et qu'aujourd'hui nous sommes dans un tout autre univers de culture, de réflexion, de connaissance,
de critères, de repères, de critères, de principes, etc.,
ça veut dire qu'il faut... en prendre son parti au sujet de la foi. Il faut que la foi se forge de nouvelles références, que celles qu'elle continue d'utiliser.
Immuabilité du sens dans le corps.
Oui, parce que la foi repose sur la négation de la réalité historique, de la réalité linguistique, de ce qui est réel.
En tous les cas, pour avoir des clés d'interprétation sur... la tradition islamique, le texte coranique, la manière avec laquelle il y a lieu de situer l'islam par rapport aux critères de la modernité, je vous recommande la lecture de cet ABC de l'islam du professeur Mohamed Harkoun, paru aux éditions Granchet. Merci, là nous avons eu quelques approches en essayant aussi reconstituer quelque peu votre parcours, Mohamed Harkoun, de ce village village kabyle natal jusqu'à la Sorbonne, et maintenant le discours que vous portez un peu partout dans le monde européen, américain, dans le monde arabe, et pas seulement arabe, islamique, vous circulez beaucoup, vous donnez des conférences majeures qui parfois heurtent, mais qui donnent du mouvement, qui donnent une certaine dynamique, qui tracent une voie. Merci Mohamed Harkoun. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, coordination Dominique Compétissa, technique Michel Mestre, réalisation François Connac. Merci à eux trois.